Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Voici la Russie. C'est le plus grand pays du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés, et elle ouvre sur plusieurs façades maritimes et compte 14 voisins.
Jusqu'à 22h.
La politique étrangère du pays se définit en fonction de cette géographie, bien sûr, mais aussi d'une histoire, puisque la Russie se veut tout à la fois héritière de la chrétienté orthodoxe, du patrimoine des tsars, mais aussi de celui de l'Union soviétique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il a disparu pendant 10 jours, alimentant les rumeurs plus ou moins folles. Vladimir Poutine est réapparu lundi en public. Peut-il continuer sa politique expansionniste après l'annexion de la Crimée? Jusqu'où ira la Russie? On répond à ces questions avec Lucas Bretonnier et Stéphane Loignon, journaliste au Parisien Magazine. Stéphane Loignon, vous rentrez d'Estonie qui se prépare à une guerre hypothétique. On en parlera, mais d'abord un mot de Poutine. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Où était-il passé?
Alors c'est le grand mystère, il a effectivement disparu pendant 11 jours entre le 5 mars et lundi dernier. Ça a alimenté toutes sortes de spéculations. Certains pensaient qu'il était malade, qu'il se faisait opérer du dos, qu'il avait la grippe, qu'il avait un cancer. D'autres pensaient qu'il serait allé voir sa maîtresse, qui est une ancienne gymnaste championne olympique en Suisse, qui aurait été en train d'accoucher. Rien de tout cela n'est confirmé. Personne ne sait vraiment ce qu'il en était. Il y a même eu des rumeurs de coup d'État. Finalement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est apparu, a priori en bonne forme, le visage un peu gonflé selon certains médias.
Petit peu de chirurgie esthétique, peut-être.
Tout est possible. Ça,
en fait. Mais il en a fait. Hein.
C'était une séance Botox, en fait, pour Boris Yeltsin. J'ai lu aussi qu'il cherchait peut-être à détourner l'attention après l'assassinat de son opposant, Boris Nemtsov. C'est possible?
Tout à fait, en fait, on peut tout imaginer. Ce serait quand même un coup de bluff assez incroyable que d'oser disparaître pendant 11 jours comme ça pour détourner l'attention. Mais en même temps,
c'est ce qui s'est passé. Hein. On parlait presque plus de la disparition de Poutine que de l'enquête sur l'assassinat de...
De fait, ça a eu effectivement cet effet-là de faire disparaître du radar médiatique l'affaire de l'assassinat de Boris Nemtsov.
Et du coup, Poutine réapparaît. Qu'est-ce qu'il déclare à son retour?
Alors, il a déclaré avec un petit peu d'humour, la vie serait ennuyeuse sans les rumeurs.
Ah, bon, il est joueur, quoi.
Voilà, il est joueur, et justement, ça prouve qu'il a voulu un petit peu... qu'il s'est amusé avec l'opinion publique internationale.
Alors, est-ce qu'avec l'Ukraine, le cessez-le-feu tient toujours?
Lucas Bretonnier.
Alors, globalement, oui. Globalement, les armes lourdes ont été... ont disparu du front à l'est, donc, de l'Ukraine, où des affrontements ont lieu, on le rappelle, depuis un an, depuis la fin de la révolution ukrainienne. En revanche, le président ukrainien Petro Poroshenko a déclaré récemment qu'il y avait un millier... disons qu'en fait un millier de fois le cessez-le-feu avait été ébranlé. Mm-hmm. Et puis notamment on a constaté des foyers notamment à Mariupol, c'est une ville près de la Crimée qui, comme vous le savez, a été annexée il y a un an par la Russie.
Oui, c'est en fait, si j'ose dire, les un an de l'annexion de la Crimée. Et ce qui est passionnant dans le dossier que vous publiez dans le Parisien Magazine en partenariat avec RTL, c'est que il y a une espèce de peur de la contagion de l'annexion dans les pays baltes. Vous êtes allé en Estonie. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler où ça se trouve, l'Estonie?
Alors l'Estonie, c'est vraiment l'extrémité nord-est de l'Europe, le long de la mer Baltique, au sud de la Finlande.
Donc il y a une frontière avec la Russie?
Et il y a une frontière avec la Russie qui est en fait principalement un fleuve qui s'appelle la Narva. Et en dessous, une grande forêt. Et donc, il y a toute la frontière est, c'était avec la Russie, effectivement.
Stéphane Loignon, vous avez rencontré des militaires là-bas. Ils se préparent à une guerre éventuelle? C'est sérieux?
Oui, oui. Alors, ils prennent ça très, très au sérieux. Ils pensent quand même pas voir débarquer les chars russes demain. Mais ils sont dans une logique de dissuasion. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils sont prêts à se battre pour éviter que, justement, la Russie n'ait des idées d'expansion en Estonie. Donc, il y a notamment en Estonie un service militaire. Donc il y a chaque année 3000 conscrits qui s'entraînent. Il y a eu aussi un certain nombre d'achats d'armes qui ont été faits récemment, notamment des sortes de chars néerlandais, les CV-90 qui ont été achetés et qui ont défilé à la frontière russe pour bien montrer qu'ils s'étaient équipés. Et des missiles anti-tank. Donc ils montrent qu'ils se préparent en tout cas.
On continue de vous parler de Poutine et de ses désirs expansionnistes, la crainte des habitants, notamment de l'Estonie. C'est ce que Poutine mène...
Qui mène la même offensive qu'en Ukraine.
Mais bien sûr, mais
Ça s'appelle
une offensive.
Une guerre hybride.
Une guerre hybride, c'est étrange. On va décrypter ce mot. À tout de suite sur RTL. Merci Thomas, je pourrais toujours compter sur vous.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'où ira la Russie? C'est la question que se posent nos confrères du Parisien Magazine. Dans un dossier à paraître vendredi, on en plein dans l'actualité avec la réapparition de Vladimir Poutine après 10 jours de silence et de folles rumeurs. Stéphane Oignon, dans quel état d'esprit sont les habitants que vous avez rencontrés en Estonie? Ils ont peur d'être envahis, annexés par les Russes?
Pour l'instant, ils ne sont pas aussi anxieux que ça, mais disons qu'ils sont quand même très méfiants, parce que c'est un pays qui a connu l'occupation soviétique pendant très longtemps. Il y a eu plusieurs invasions russes, même avant l'époque de l'URSS. Mm-hmm. Donc il y a un rapport avec la Russie qui est très particulier. En gros, pas mal d'Estoniens m'ont même dit qu'ils finiront de toute façon par revenir. Mais c'est parce que c'est presque dans la logique historique. Donc il y a une grande méfiance. Néanmoins, ils savent que l'Estonie fait partie de l'OTAN, qui est donc l'alliance militaire constituée autour des États-Unis et des États occidentaux, et à ce titre que l'Estonie est protégée par son appartenance à l'OTAN.
Alors les Estoniens craignent un scénario de guerre hybride, ça veut dire quoi?
Alors la guerre hybride, c'est un concept de l'OTAN qui évoque un mélange d'opérations militaires clandestines qui sont pour la plupart démenties, des attaques, des cyberattaques, de la propagande, des pressions économiques, une sorte de guerre qui ne dirait pas son nom et qui créerait une situation de trouble difficile à contrer pour le pays qui en est la cible.
C'est ce qui s'est passé en Ukraine.
C'est ce qui s'est passé dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass.
Avec des paramilitaires qui n'avaient pas l'uniforme russe, mais on se doutait
qu'on appelle les petits soldats verts.
Voilà, c'est ça. Lucas Bretonnier, ce scénario, il n'est pas nouveau d'abord parce qu'il y a eu la Crimée, mais même si on remonte beaucoup plus loin, 1991, la Transnistrie. Alors nous ici, on connaît la Transnistrie parce qu'on a fait une émission sur ce thème-là.
On a l'hymne d'ailleurs.
On a l'hymne, Sidonie, on s'offre l'hymne de la Transnistrie. Même.
Et on se lève.
Ah oui, c'est vrai, à chaque fois on se lève. Les yeux debout. C'est notre running gag, notre gag récurrent sur la Transnistrie. Mais ce pays qui n'existe pas parce qu'il n'est pas reconnu par les Nations Unies,
bah, il existe pourtant.
Et il a une frontière, il a un président, etc. Et il a été quoi? Annexé par la Russie? Lucas Bretonnier.
On peut considérer que ça a été un petit peu la première région victime, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais de la guerre hybride dont on venait de parler. C'est-à-dire, c'est très intéressant, sans refaire toute l'histoire des anciens pays de l'ex-Union soviétique, la Transnistrie, c'est donc un territoire, une bande de terre en fait à l'est de la Moldavie. Donc tout ça est au sud-ouest de l'Ukraine. À la fin de la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'Union soviétique, la Moldavie demande son indépendance. Donc elle s'émancipe du joug soviétique. Or, une partie de sa population est russophone, et même complètement russe, est à l'est de son pays. Et cette partie de la population, elle refuse cette indépendance. Pour des raisons un peu complexes, mais pour des raisons simples aussi, c'est qu'elle se revendique russe et presque soviétique. Et tout ça, évidemment, est orchestré en sous-main par, à l'époque, c'est Boris Yeltsin.
Que j'ai cité tout à l'heure, voilà. Par erreur, d'ailleurs.
Vous étiez un peu en avance.
Voilà, ça doit être ça.
20 ans d'avance, mais de retard plutôt.
Merci Lucas, c'est gentil.
Bienvenue dans la bande.
Donc il y a un scénario d'annexion.
C'est ça, en tout cas.
Il dit pas son nom,
mais c'est exactement un scénario qu'on a retrouvé ensuite en Géorgie avec les territoires d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Ce sont des noms qui sont un petit peu. Qu'on entend un petit peu, mais qui ne sont pas. Sont un peu complexes et qui sont donc des régions de, là en l'occurrence, de la Géorgie. Et de la même manière, ces régions se sont réclamées indépendantes et il y a eu une guerre civile en Géorgie en 2008 avec carrément à ce moment-là les chars russes là qui ont pénétré en Géorgie. Et là, c'était plus du tout une guerre hybride, on était complètement dans un scénario d'invasion.
Ouais, et on voit vraiment qu'on a un scénario qui se répète depuis 1991. En fait, Stéphane Loignon, vous êtes donc allé en Estonie. Il y a une ville qui pourrait servir en quelque sorte de prétexte à une offensive russe. C'est Narva, c'est ça?
Narva. Voilà.
Elle est située où?
Alors, c'est à l'extrémité orientale de l'Estonie, et donc c'est vraiment la pointe nord-est de l'Union européenne. Et c'est une ville qui est très étonnante parce que, donc, à son extrémité est, on voit le fleuve qui sépare la Russie de l'Europe. Mm-hmm. Et donc, à 50 mètres plus loin, on est en Russie. Donc, et un pont relie la ville à la Russie. Et on se dit que finalement, il serait très très facile pour les soldats russes de passer s'ils le souhaitent.
Et cette ville, elle est majoritairement, très majoritairement russophone.
Voilà. Alors, c'est l'autre paradoxe de cette ville, c'est que c'est une ville d'Estonie où n'habitent que des Russes. Il y a 98% de la population qui sont des Russes d'Estonie, qui parlent pour la plupart que russes.
Et là, on a le prétexte d'une intervention en sous-main des Russes. Mais pour ça, il faut qu'ils lancent en quelque sorte un appel à l'aide. Ils l'ont fait.
Alors, en fait, la situation est quand même différente de celle de l'Est de l'Ukraine, notamment parce qu'en Estonie, on ne vit pas si mal. Et on vit, le niveau de vie en Estonie est deux fois supérieur à celui de la Russie.
C'est-à-dire que même les Russes en Estonie n'ont pas forcément envie de redevenir russes.
Ceux que j'ai rencontrés, qui pour la plupart étaient là depuis très très longtemps, sont très contents d'être en Estonie parce qu'ils y vivent mieux, les retraites sont supérieures. C'est un pays pacifique où règne une grande liberté d'expression. Il y a de la croissance. Enfin, l'Estonie, c'est quand même un endroit plutôt agréable où vivre.
Alors, il y a un homme politique qui résiste à l'expansionnisme de la Russie et qui résiste à Vladimir Poutine. C'est un colosse, on va l'imaginer. Il mesure 2,02 m, il pèse 110 kilos. Il faut dire que c'est un ancien champion du monde de boxe. Il s'appelle Vitali Klitschko. Et vous l'avez rencontré, Lucas Bretonnier. Ça doit être assez impressionnant d'être face à cette masse de muscles. Et ben, cet ancien boxeur, il est devenu homme politique. On vous raconte son histoire tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
C'est à la mi-mars, après un référendum, que la Crimée s'est détachée de l'Ukraine. Le 27 février 2014, un commando pro-russe s'était emparé du Parlement de Crimée. Première étape d'une annexion programmée.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur le marché de Simferopol, on soutient les autorités russes malgré une économie sinistrée. Il n'y a pas la guerre ici, remarquent les habitants soulagés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un an tout juste après l'annexion de la Crimée, le Parisien Magazine, en partenariat avec RTL, publie un dossier passionnant sur les risques de guerre dans les pays baltes et sur la paix fragile en Ukraine. Stéphane Loignon et Lucas Bretonnier sont avec nous. Lucas Bretonnier, pour cet article à découvrir vendredi, vous avez rencontré Vitali Klitschko. À quoi ressemble-t-il? J'ai envie de dire qu'il n'a pas un physique d'hippopotame.
Merci. Non, il a plutôt un physique de dieu grec. C'est un surhomme, en fait. Il fait 2 mètres, 110 kilos. Il a le visage façonné par les milliers de coups de poing qu'il a pris dans sa carrière, parce qu'il était boxeur, Vitali Klitschko. C'est une des personnalités les plus connues, les personnalités ukrainiennes les plus connues au monde.
Boxeur et pas n'importe quel boxeur, c'est ça?
Il a été 3 fois champion du monde des poids lourds. Donc c'était vraiment une star de la discipline et une star même dans son pays, en Ukraine.
Aujourd'hui, c'est un homme politique?
Effectivement. Il a eu d'abord une première retraite de boxeur. Ça arrive souvent dans ce sport. Ils font une première retraite, puis ils reviennent après sur le ring. Et donc, à ce moment-là, en 2006, il s'est initié un peu à la politique, notamment à la mairie de Kiev. Puis il a repris un peu sa carrière. Puis il est vraiment, il a explosé sur le devant de la scène politique, au moment de la révolution de Maïdan à Kiev l'an dernier.
Maïdan, c'est le nom de la place.
De la place de l'indépendance de Kiev.
De Kiev.
On a appelé cette révolution Euromaïdan, hein, parce que c'était une révolution qu'ils ont voulu européenne. Et il a été un petit peu le porte-drapeau et le porte-voix de tous ces manifestants. Il était très mis en avant.
Vous l'avez rencontré où, Vitali Klitschko, Lucas Bretonnier?
Alors c'est étonnant, je l'ai rencontré à Cannes, sur la Côte d'Azur, en France.
Sur la Croisette?
Voilà, c'était une drôle de rencontre. Il venait défendre les couleurs de son pays et de sa ville, puisqu'en fait à Cannes, vous le savez, il y a beaucoup de salons. Mm-hmm. En l'occurrence là, il y avait le MIPIM, c'est le plus grand salon des professionnels de l'immobilier au monde carrément. Mm-hmm. Et donc là-bas, pour que les auditeurs comprennent bien, vous avez plein de stands de différents pays et de différentes villes qui vendent un peu les mérites de leur région pour s'attirer promoteurs et investisseurs. Et pour Kiev, ça a du sens, parce que un an après Maïdan, le pays et la ville sont dans un état déplorable. Il y a une économie vraiment qui est très très dans un état très très compliqué. Et donc Vitali Klitschko, il est venu pour dire aux investisseurs: venez investir à Kiev, il faut reconstruire ma ville.
Donc Lucas Bretonnier, vous avez interviewé Vitali Klitschko, ancien champion de boxe, homme politique ukrainien. Qu'est-ce qu'il vous dit dans votre interview? Qu'est-ce qu'il dit aux Européens?
Il dit plusieurs fois, il le martèle, nous sommes Européens. C'est une conviction qui n'est pas seulement personnelle, hein. Il le défend. Il dit, nous sommes un des plus vastes pays en termes de
superficie,
merci, de la région. Nous sommes de culture, d'histoire et de mentalité, il dit, européen. Donc aidez-nous pas seulement par bonté de cœur, mais parce que vous avez intérêt, l'Europe a intérêt à ce que son dernier rempart avant la Russie de Poutine soit un pays stable économiquement, politiquement, et que nous soyons tous ensemble forts contre Poutine, parce que c'est un grand opposant à Vladimir Poutine.
Oui, parce qu'il faut rappeler le point de départ de la révolution dont vous parliez tout à l'heure sur cette place Maïdan à Kiev. C'est un attachement à l'Europe exprimé par la population ukrainienne.
Tout à fait. Ce qui a mis le feu aux poudres, parce qu'il y a toujours les causes profondes et puis le déclencheur, c'est le refus par le président de l'époque ukrainien, Viktor Yanukovych, de signer un accord d'association entre son pays, l'Ukraine, et l'Union européenne. C'était pas l'intégration dans l'Europe. Hein. C'était un accord d'association assez technocratique, mais qui était quand même un pas vers l'Europe. Et Yanukovych, le président ukrainien, un petit peu manipulé par Vladimir Poutine, s'y est opposé. Et là, tout d'un coup, il y a eu des centaines de milliers, voire un million de personnes à Kiev.
D'accord, et avec un conflit qui s'est enclenché, avec cette guerre hybride dont on parlait tout à l'heure, l'annexion de la Crimée, des efforts internationaux pour aboutir à la paix, et l'accord de Minsk qui a été signé par François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il dit Vitali Klitschko, ce champion du monde de boxe devenu homme politique ukrainien, de cet accord de paix? Est-ce que ça le rassure? Est-ce qu'il y croit?
Il s'est pas vraiment étendu sur le sujet, à mon avis. Il a pas envie peut-être d'attiser les braises au moment où je l'ai rencontré, parce que c'était quelques jours après les accords de Minsk. Mm-hmm. Je pense qu'il a une parole qui porte, et il se veut quand même. Il veut délivrer un message de paix, mais après, il est très offensif sur Vladimir Poutine.
Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui, sur Poutine?
Alors, il y va franco. Il dit qu'en fait, Vladimir Poutine est omnubilé par son illusion de l'empire, de reconstruire un empire soviétique, et que cette obsession le rend fou. Il dit carrément Vladimir Poutine est fou, et il rend tout son pays complètement fou, avec ce qu'on pourrait appeler un délire nationaliste, en fait, de la Grande Russie. À ce propos, il y a des sondages russes très intéressants qui montrent qu'en 2 ans, l'opinion publique s'est complètement retournée contre l'Union européenne et contre les États-Unis. C'est-à-dire qu'en 2013, ils étaient 25% de Russes à avoir une opinion négative de l'Europe et des États-Unis. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, en 2015, ils sont 70% à ne pas vouloir de l'Europe, en tout cas être contre l'Europe, et 80% à ne pas aimer les Américains. En 2 ans, c'est un retournement de l'opinion qui est
vraiment marquant. Oui.
Vitali Klitschko, l'ancien champion du monde de boxe qui fait de la politique aujourd'hui et que vous avez rencontré, Lucas Bretonnier, qu'est-ce qu'il pense de la Crimée? Vous lui avez demandé, est-ce qu'il espère que cette région redevienne ukrainienne?
Il l'espère, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'espoir, puisque lui comprend tout à fait la technique de Vladimir Poutine. Hein. Il dit que Poutine a intérêt à déstabiliser l'Ukraine pour nuire aux Européens. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe qui pourrait nous faire penser à un retrait de la Crimée. Il n'est pas très optimiste là-dessus.
Mmh. Et dans ce dossier spécial du Parisien Magazine, il y a d'ailleurs un reportage en Crimée à lire, qui est lui aussi passionnant. Merci à tous les deux. Merci Lucas Bretonnier, merci Stéphane Loignon. Ces articles sont à lire en kiosque dès vendredi en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.